Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Ta parole dit que tu cherches de vrais adorateurs qui t'adoreront en esprit.
Nous avons intitulé nos rencontres sur les traces d'Élisée. Nous avons parlé déjà plusieurs fois des aventures, des épisodes de la vie du prophète, de ses miracles. Nous n'avons pas fini, loin s'en faut, et nous sommes arrivés dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 4, à partir du verset 38, que Élisée revint à Gilgal, et il y avait une famine dans le pays. Il faut souligner ça, une famine. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, à Géasi, il dit « Mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. » L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage, et il y cueillit des coloquintes sauvages, plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage. Je souligne aussi cela, on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent « La mort est dans le pot, homme de Dieu !» Et ils ne purent manger. Élisée dit « Prenez de la farine. » Et il en jeta dans le pot et dit, « Serre à ces gens, et qu'ils mangent. » Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Un homme arriva de Baal chez Elisha. Il apporta du pain, des prémices à l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et des épis nouveaux dans son sac. Élisée dit, « Donne à ces gens, et qu'ils mangent. » Son serviteur répondit, « Comment pourrais-je en donner à 100 personnes ?» Mais Élisée dit, « Donne à ces gens, et qu'ils mangent, car ainsi parle l'Éternel, on mangera, et il y en aura de reste. » Il mit alors les pains devant eux, et ils mangèrent, et il y en eut de reste, selon la parole de l'Éternel. Nous avons ici les aventures de 100 jeunes gens distingués que l'Écriture appelle par une expression qui sort des sentiers battus, les fils des prophètes. Qui sont ces fils des prophètes? J'ai sur le sujet une interprétation personnelle que l'on ne trouve pas dans les revues, dictionnaires, commentaires ou encyclopédies bibliques que j'ai consultées. Mais ne craignez rien, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est probablement parce que c'est vous qui avez raison. Cette expression « fils des prophètes » revient 11 fois dans quelques chapitres seulement du livre des Rois. Ils n'appartiennent qu'à une génération, car vous ne les retrouvez ni avant ni après ces quelques chapitres. Ils appartiennent à cette génération qui a eu le malheur de connaître le règne d'Akab et de la sanguinaire Jézabel. Cette femme avait inauguré son règne d'apostasie par un sanglant sacrifice. Elle avait fait mettre à mort tous les prophètes de l'Éternel. Quelques-uns seulement avaient échappé au massacre général. Vous trouvez cela dans 1 Rois 18, verset 4. Et c'est à partir de ce moment-là que l'expression « fils des prophètes » est rapportée. Ils étaient des orphelins, les fils des martyrs de la foi. Ils étaient en fait les fils de ceux qui avaient donné leur vie dans la lutte contre l'oppression et pour la vérité. Aujourd'hui, on les appellerait les enfants de la patrie. C'est ainsi qu'on appelle ceux dont les parents sont morts pour la défense de leur patrie. Des facilités et des priorités leur sont accordées par le pays que leurs parents ont si bien servi. Dieu n'a pas oublié le sacrifice des pères, et il lui a plu d'honorer leur fils d'un beau titre, que plus jamais personne ne portera après eux. La postérité les connaîtra désormais comme ayant été les fils des prophètes. Non, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail d'amour, dit Hébreux 6, verset 10. Et Dieu sait faire reposer la bénédiction des pères sur les enfants. Nous trouvons même dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 5, un homme qui a exploité la situation à son avantage. Géasi, le serviteur d'Élisée. Il a fait ce que font certains escrocs à l'occasion de catastrophes ou cataclysmes naturels. Ils vont de porte en porte, exploitent la pitié publique et détournent à leur profit une générosité qui devrait secourir les malheureux au nom desquels ils viennent quêter. Géasi a couru après le général Naaman, qu'Élisée avait guéri de sa lèpre, et duquel Élisée n'avait rien accepté. Et Géasi l'attendrit en lui parlant de deux orphelins, de deux pauvres jeunes gens dont les pères sont morts pour une cause juste. Ils sont sans le sou, pauvrement vêtus. Et Naaman, qui ne se méfiait pas, lui donne les vêtements et le double de la somme qu'il avait demandé. Ceci nous montre qu'exploiter l'infortune des autres pour en tirer un profit personnel, ce n'est pas une malhonnêteté nouvelle. Mais un terrible châtiment attendait l'indélicat serviteur, car à peine avait-il rangé son argent dans son bahut que la terrible maladie de la lèpre qui avait été sur Naaman s'est attachée à Géasi jusqu'au jour de sa mort. Non, Dieu n'aime pas les mercantiles de la pitié populaire. Il est le père des orphelins, et il prend leur défense. Le châtiment de ceux qui les outragent est certain. Dans le deuxième livre des Rois, un peu plus loin, chapitre 9, verset 1, nous trouvons la dernière mention de fils des prophètes. À cette occasion, Élisée choisit l'un d'eux pour aller oindre roi l'intrépide Jéhu, pour roi d'Israël, qui, comme l'Hercule de la mythologie grecque, nettoya les écuries d'Ogias. Il ira mettre à mort Jézabel, la meurtrière de son père. L'heure du règlement des comptes a sonné pour Jézabel, et Dieu, pour sceller officiellement l'expiation de ses meurtres, se sert du fils d'un de ceux qu'elle a fait massacrer. Voyons maintenant le caractère de ces fils des prophètes. Et dans le chapitre 4, au verset 1, le texte commence par... Une femme d'entre les fils des prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. » On trouve ici la jeune veuve d'un de ses fils des prophètes et ses deux enfants. Elle vient demander assistance à Élisée, et elle dit de son mari qu'il craignait l'Éternel. Il craignait Dieu dans le sens d'une crainte respectueuse, craignant de lui déplaire. Et on sait, d'après le livre des Proverbes, au chapitre 8 et verset 13, que la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Cela veut dire aussi que ces jeunes gens étaient engagés dans l'œuvre de Dieu. Leurs intérêts gravitaient autour de la parole dont ils voulaient être les porteurs. Une fois au moins, l'un d'eux est appelé du nom de prophète dans le plein sens du terme. Un roi, chapitre 20, verset 38. Ils étaient relativement jeunes, et ce qui m'a frappé, c'est qu'ils collectionnaient les erreurs, les bévues, les maladresses. Ils ressemblaient assez à l'apôtre Pierre avant la Pentecôte. J'aime beaucoup l'apôtre Pierre et son côté spontané. Mais presque chaque fois qu'il entreprend ou qu'il dit quelque chose, on est sûr qu'il va mettre les pieds dans le plat. Il serait intéressant de développer cette pensée, mais cela déborderait notre étude de ce soir. Eux aussi se mettent dans des situations parfois cocasses. En voici quelques-unes. Un jour, ils décident d'aller abattre des arbres au bord de la rivière sans s'assurer que l'outil était bien emmanché. Et plouf, voilà la cognée qui tombe à l'eau, et de s'écrier « Ah, Seigneur, il était emprunté !» Je pense vous en parler une prochaine fois. Une autre fois, contre l'avis d'Élisée, il se met à la recherche du corps d'Élie, qui venait d'être enlevé au ciel dans des chars tirés par des chevaux de feu. Et après des jours de recherche, il rentre fourbu, exténué, pour s'entendre tout simplement rappeler « Je vous l'avais dit de ne pas y aller ». Et ici, ils mettent des fruits empoisonnés dans la marmite à soupe, et ils s'écrient « La mort est dans le pot ». Ils étaient donc fils des prophètes, et on comprend qu'à côté du titre et de l'honneur qui s'y attache, c'est pas sans raison qu'ils ne sont pas appelés prophètes, mais seulement fils des prophètes. C'est-à-dire que des prophètes, ils n'en sont que les fils. Ils n'entrent pas dans la pleine révélation de leur père. Et dans ce sens, il y a toujours eu des fils des prophètes. Ils sont représentés aujourd'hui par ce que nous appellerions les chrétiens de deuxième ou troisième génération. Il ne viendra l'idée de personne d'oser dire qu'ils ne sont pas chrétiens. Mais quand on parle d'eux, on songe surtout à leur père dont ils ne sont que les fils. Ils sont les héritiers d'un grand nom, d'une grande réputation. Ils sont fils et petits-fils de héros dont nous baisons encore les traces qui nous ont été conservées par les biographies qui ont été écrites sur eux. Je me souviendrai longtemps de la petite fille d'un couple missionnaire tout auréolé de la gloire des pionniers qui avaient laissé leur vie en terre de mission. Elle était l'héritière d'un grand nom, et je considérais comme un privilège de partager la même table qu'elle. Quand elle est apparue, la figure peinturlurée comme l'aurait été la femme objet que stigmatisent les mouvements féministes. Quelle déconfiture ! En y réfléchissant, j'ai compris et j'ai plaint cette jeune personne. Le nom de ses parents n'était pas taillé à sa mesure. Elle n'était que la fille ou la petite fille d'eux. Moralement parlant, elle flottait dans des vêtements trop larges. Eh bien, eux aussi devaient sentir le poids d'une réputation qu'ils n'avaient pas gagnée. Mais il y avait ceci de bien chez eux, et je les salue d'un large coup de chapeau, c'est qu'ils voulaient se conduire comme des prophètes, et ils essayaient de vivre à la hauteur du nom qu'ils portaient et de la réputation qu'ils avaient à défendre. Ils y ont mis du sérieux. Et l'un d'eux au moins a été récompensé, car il a été appelé, comme son père, du nom de prophète. Dans le texte que nous analysons, nous les trouvons tous assis devant leur nouveau chef. Ils reconnaissaient que l'Esprit de Dieu, et même une double mesure de cet Esprit, était sur Élisée, et ils désiraient apprendre de lui. C'était, dirions-nous, leur professeur. C'était une sorte d'école biblique. Remarquez, soit dit en passant, que c'était l'école biblique la plus sélecte du monde, même si elle se tenait en plein air. Et par comparaison, celle d'Emmaüs en Suisse n'est rien. La faculté de théologie d'Aix-en-Provence n'est rien à côté de la leur. Celle de Vaux-sur-Seine n'est rien non plus. Le fameux London Bible College, à qui aurait été rattachée celle que j'ai fréquentée, tout ça, ce n'est rien, c'est du rikiki. Jugez-en vous-même. Cette école biblique était présidée par Élisée. Elle se faisait dans les champs. C'était donc l'école biblique des Champs-Élysées. Je prends maintenant la liberté de dire aux jeunes gens et jeunes filles qui sont ici et qui vivent dans un temps de récession où il est difficile de trouver du travail. Dites-moi, pourquoi n'envisageriez-vous pas de mettre de côté une année de votre vie pour entrer dans une école biblique et vous préparer, vous former en vue d'un service auquel Dieu pourrait alors vous appeler? Ici, c'était l'école de Dieu en un temps de récession et même de famine, nous l'avons lu, où il fallait se serrer la ceinture. Voyez-vous, Dieu voulait que son école soit bonne et il l'a fait coïncider avec un temps de privation. Aujourd'hui encore, c'est souvent le partage de tous ceux qui veulent s'équiper pour servir Dieu. J'ai suivi des cours de formation biblique dans un institut biblique dont je viens de citer l'affiliation. C'était en Angleterre. L'époque était encore au rationnement. Si je n'ai jamais eu faim, je le précise, j'ai dû apprendre à parfois me serrer la ceinture d'un cran. J'ai en tout cas dû me séparer de mes tickets de bonbons, car je ne pouvais pas me payer des douceurs. Mais il y avait pire. Chaque week-end, nous descendions en équipe en ville pour faire de l'évangélisation en plein air, et nous choisissions une place très passante, la seule place très passante de la ville. C'était malheureusement aussi l'endroit qu'avait choisi la friterie ambulante pour s'y installer. Pour le Belge que j'étais à cette époque, c'était le supplice de Tantale, me remplir les narines d'un fumet que mon porte-monnaie refusait à mon estomac. Une fois, peut-être deux, je me suis quand même permis le sachet de frites à 3 pence. Sans doute Dieu voulait-il que ces jeûnes obligatoires soient une excellente préparation pour les jeunes volontaires qui allaient suivre. Mais voyez-vous, le cœur et la tête travaillent bien quand l'estomac n'est pas encombré. Voyons maintenant ce qu'ils devaient apprendre. Il devait apprendre à être prophète, c'est-à-dire voyant, et avoir la vision d'un prophète, à faire la volonté de Dieu dans l'œuvre de Dieu. Leur père avait appris cela, et il s'y était donné jusqu'à la mort. En plus, outre les cours donnés par Élisée, ils avaient devant leurs yeux une biographie vécue, et il voyait se reproduire en lui le miracle de la vie d'Élie. Mais cela restait malgré tout très théorique, et la théorie ne suffit pas. Vous ne sauriez croire combien grande est la vision qu'on peut avoir quand on entend quelqu'un parler de l'évangélisation et des besoins du monde. Mais c'est une toute autre chose de descendre dans la rue et de garder, je souligne, de garder la vision. Ainsi, certains cours sur l'évangélisation nous faisaient parcourir toute une carrière d'évangéliste en 3 quarts d'heure. C'était formidable, mais je n'ai pas accompli en 25 ans la substance que j'ai visionnée en 45 minutes. Non, cela était insuffisant pour eux. Dieu voulait les faire se mêler aux expériences de la vie et leur donner une remarquable leçon de choses. Élisée, après leur avoir dispensé la théorie du service, va leur donner une scène en 2 panneaux pour leur apprendre comment faire l'œuvre de Dieu. 2 panneaux contrastés, l'un pour apprendre ce qu'il ne faut pas faire, l'autre pour savoir ce qu'il faut faire. Élisée a peut-être tapé dans les mains ou fait sonner la cloche et dit « La théorie est terminée. On passe maintenant à la pratique. Messieurs, à table, préparez la soupe. » Ça a dû résonner agréablement dans leurs oreilles, mais sonner creux dans leur estomac estomac, je m'empresse de le dire, qui à leur âge était comme l'abîme sans fond de l'Apocalypse. Que va-t-on manger ? Un peu d'eau réchauffée où nagent quelques rares légumes ? Ça, c'était l'entrée. Et après ? Où sera le plat de résistance ? Ils devaient apprendre que l'œuvre de Dieu, d'abord, a besoin de foi. C'est par la foi qu'Élisée a ordonné de commencer le repas. Ce qu'il a fait équivalait à dresser la table quand le buffet à provisions est dégarni. N'est-ce pas là ce que fit George Muller, le fondateur des orphelinats de Bristol ? Il avait tous ses enfants à nourrir. L'heure du petit-déjeuner était arrivée, mais il n'y avait rien à manger. Il fit dresser la table et chacun prit place devant une assiette vide. Il alla même jusqu'à rendre grâce pour le repas. Et c'est alors que le nouveau boulanger du coin heurta à la porte et vint offrir les pains qu'il avait fait en trop par erreur. Ainsi, faire l'œuvre de Dieu, c'est d'abord être convaincu que c'est l'œuvre de Dieu. C'est se lancer par la foi et croire que Dieu va se mettre en mouvement et s'engager à son tour. On me dira peut-être, quelle preuve avez-vous que ce sera un succès ? Mais la foi ne veut pas de preuve, et elle ne vise pas le succès. La foi ne veut que Dieu lui-même pour preuve, et l'accomplissement de sa volonté pour but suprême. Donc, il devait apprendre que l'œuvre de Dieu a besoin de foi. Il devait aussi apprendre que l'œuvre de Dieu commence parce qu'elle a à sa disposition. Ils avaient le feu, le pot, que j'appelle la marmite, un reste de farine et quelques légumes épars. Allons-y, mettons tout cela dans la soupière. C'est insuffisant. Soit. C'est souvent, si pas toujours, que nos ressources naturelles viendront à manquer dans l'œuvre de Dieu. Mais Dieu n'a-t-il pas promis de pourvoir, de suppléer à tous nos besoins ? Ces besoins sont si grands qu'ils engouffrent en un rien de temps nos ressources naturelles. Souvenez-vous qu'un jour, devant une foule estimée à 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, le Seigneur n'avait à sa disposition que 5 petits pains et 2 poissons, ce qui était beaucoup trop peu. Et il en sera toujours ainsi. Et si Dieu a fait nos besoins si grands et nos ressources si petites, c'est afin de se réserver l'honneur de venir lui-même y suppléer. L'œuvre de Dieu a aussi besoin non seulement de commencer par la foi et par ce qu'elle a à sa disposition, mais elle a besoin de vision. De vision. Et la raison du calme olympien d'Élisée ne doit pas être trouvée ailleurs. Il avait la foi et la vision de ce qui allait venir. Eux ont suppléé à leur manque de vision en s'agitant et en courant çà et là. Leur intervention dans la préparation du repas commun est partie, je l'admets, d'une bonne intention. On ne peut quand même pas laisser le serviteur Géasi faire tout ça tout seul. Mais bonne intention et vision n'ont en commun que la rime. Si ça fait bien en poésie, ça ne rime pas toujours dans l'œuvre de Dieu. Chaque fois qu'ils ont fait une de ces bêtises citées tout à l'heure, c'était chaque fois avec la meilleure bonne intention du monde. L'activité n'est pas toujours spiritualité, pas plus d'ailleurs que la paresse ou la nonchalance. Et la preuve, c'est que l'un d'eux est parti pour chercher des herbes et il est revenu avec tout autre chose. Ça ne ressemblait à rien avec ce qu'il s'était proposé de cueillir. Il n'avait pas la vision, ou plutôt sa vision était dangereusement faussée. Il est arrivé dans un vignoble en friche, on appelle ça de la lambrusque, et là, ses pauvres yeux n'en ont pas cru leur rétine. Il découvre à ses pieds ce qu'il croit être un champ de concombres. Des fruits en quantité comme il n'en a jamais vu, et qui, en fait de concombres, n'étaient que des coloquintes. Ça ne m'étonnerait pas qu'il soit tombé à genoux pour rendre grâce au Seigneur. Il a peut-être cité dans son cœur Ésaïe 65, « Avant qu'il parle, dit l'Éternel, je répondrai. » Ou encore, « L'Éternel est ma délivrance. » Ah, mes amis, des réponses et des délivrances pareilles, il vaut mieux ne pas en avoir. Ce sont là des victoires à la Pyrrhus, lequel, félicité à l'issue d'une bataille victorieuse mais coûteuse, a dit « Encore une victoire comme celle-ci, et je suis perdu. » Non, quand on n'a pas la vision dans l'œuvre de Dieu, on risque de partir en chasseur et de revenir en gibier. Ce pauvre n'a pas vu plus loin que la pelure. La coloquinte est un fruit d'ornement de la famille des cucurbitacées, qui a très belle apparence, mais n'est pas comestible. Manquant de discernement ou de connaissance, il n'a pas vu que la plante était, comme c'est écrit, elle était sauvage. Sa nature n'avait pas été transformée. Oh, bien sûr, le pan de sa tunique s'est rempli en moins de deux. C'était du 13 à la douzaine. Mais des coloquintes au kilo, ça donne des coliques. Avec quoi remplissez-vous votre vie ou votre ministère? Avec ce qui n'a que l'apparence? Avec ce qui se cueille facilement? Je vous promets des maux de ventre avant longtemps. On vous entendra bien vite crier « Homme de Dieu, la mort est dans le pot !» Je voudrais maintenant voir avec vous les marmites de notre temps, de notre époque. Parce que dans notre époque, il y a des marmites... Par exemple, dans le monde, il y a la marmite de l'ONU, la marmite onusienne, dans laquelle on fourre de tout, avec sans doute les bonnes intentions, comme dans notre récit. Mais comme cette marmite onusienne est une marmite moderne, c'est une marmite à pression, dont la soupape de sécurité a un peu trop souvent le hoquet. L'inquiétant, c'est qu'elle se bloque parfois, et tout le monde se demander si elle ne va pas sauter d'un moment à l'autre. Ce qui est à craindre, c'est pas seulement ce qu'il y a dans la marmite, mais c'est la marmite elle-même qui est devenue un danger. La mort est dans la marmite de la paix. Il y a aussi la marmite individuelle. Il y a des gens que je n'aime pas côtoyer de trop près. Ils semblent toujours sous pression, toujours à cran, toujours les nerfs à fleur de peau, toujours prêts à élever la voix au moindre contretemps. Et on se demande si eux aussi ne vont pas finir par exploser. Il y a la marmite œcuménique, dans laquelle on fourre à peu près tout ce qui a une coloration religieuse et l'aspect agréable des coloquintes. Tout finira par avoir le goût amer de l'apostasie générale dont il est question dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Il y a aussi la marmite du mariage. Ah, il y a de jolies coloquintes, jusque dans nos bons milieux évangéliques. Et ceux qui, avec la meilleure intention du monde... Mais un manque de discernement n'ont pas vu plus loin que la pelure. Elle a de si beaux yeux. Ils devront bien vite s'apercevoir que la mort du couple est aussi dans cette marmite-là. Suivez mon regard. Il y a aussi la marmite de l'Église, où à force d'abaisser le niveau d'admission au ras des pâquerettes, on baptise et on accueille comme membres des inconvertis au reflet de coloquinte, mais dont la nature n'a pas été changée par une nouvelle naissance réelle. Si nous faisons l'œuvre de Dieu avec la vieille nature seulement, Si nous nous servons d'éléments, d'hommes et de moyens sur lesquels le Saint-Esprit n'est pas venu greffer la nature divine, ça finira mal à coup sûr. Ce sont des marmites tardement qui, même sans exploser, auront mijoté l'amertume de leur pelure chatoyante, mais mortelle, dans le potage de la communauté. Je pense à ce cher ami, avec une âme et une vocation de pionnier. Il a commencé une église dans une ville et en a fait un vrai succès. Mais comme tout commencement est difficile, il a mis des coloquintes dans cette œuvre. Je ne le blâme pas, à sa place j'aurais peut-être fait comme lui. Et ces gens qu'il introduit, c'était des mécontents venant d'autres communautés. Et ils sont entrés avec leurs coloquintes empoisonnées du mécontentement, qui ont tout infecté, et la mort était dans le pot. L'œuvre de Dieu a besoin de vision, et nous ne pouvons pas y mettre des fruits alléchants peut-être, mais vénéneux. Il y a encore d'autres coloquintes, beaucoup, comme celle de la médisance. Ce sont celles qui ont la plus belle peau du monde, car ce sont des propos que l'on écoute favorablement. Ah, ça fait tellement plaisir au niveau du cœur et des sentiments quand on vous parle sur quelqu'un et surtout quand on l'agrémente d'un, j'allais dire, on le pimente du lénifiant. Surtout, faut le dire à personne. Coloquinte que celle-là. Alors on continue, on déduit très logiquement que l'œuvre de Dieu ne se fait pas non plus avec le secours de l'ignorance. Nous avons lu, on ne les connaissait pas. Dieu n'a jamais recommandé l'ignorance à personne. Le livre des Proverbes au chapitre 19, verset 2 dit que le manque de connaissance n'est bon pour personne. Et l'Ecclésiaste, chapitre 10, verset 16, poursuit par « Malheur au pays dont le roi est un enfant !» Les enfants sont ignorants, ils mettent en bouche tout ce qui leur tombe sous la main, et c'est ce qu'a fait ce jeune homme. Ce n'est pas pour rien que les grandes responsabilités dans l'Église ne doivent pas être confiées à de jeunes convertis, nous dit l'apôtre Paul en 1 Timothée 3, verset 6. Au jeune Timothée, Paul écrit au contraire ses dernières recommandations et il dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un serviteur qui n'a pas à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Non, l'ignorance et l'obscurantisme ne viennent pas de Dieu. » Même Job a été tensé par le Seigneur qui lui a dit « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ?» Chapitre 38 et verset 2. Nous continuons. Dans l'œuvre de Dieu, une provision, heureusement, une provision de grâce a été prévue pour nos erreurs. Cela veut dire qu'il y a possibilité de revenir à une situation saine, même si tout est affecté et infecté. Parce que c'est ce qui arrive quand on met des coloquintes, les coloquintes du péché dans l'œuvre de Dieu, quel que soit leur nom. Nos vies sont aussi l'œuvre de Dieu. Il est écrit dans ce grand texte d'Éphésiens 2, verset 10, « Car vous êtes son ouvrage, ayant été créé, non pour les coloquintes, mais pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées, d'avance, afin que nous les pratiquions. Et il suffit de quelques erreurs de ce genre pour contaminer l'œuvre, et même pour en arriver à en dégoûter ceux qui y participent. Le problème qui se pose à présent, c'est comment va-t-on rectifier ce qui est gâché? J'ai appris, et c'est une chose à savoir, c'est que on ne débrouille pas des œufs brouillés. Je répète, on ne débrouille pas des œufs brouillés. Élisée n'a pas dit « Enlève tes coloquintes de malheur ». Il était trop tard. Élisée n'a pas amendé ou amélioré le repas. Il l'a régénérer. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Dieu a donné 3 solutions possibles à son œuvre quand nous l'avons gâchée. Ou nous acceptons sa solution à lui, ou on renverse la marmite, 2, ou 3, on refuse de se juger. On mange quand même et on va au cimetière. C'est ce que faisaient les Corinthiens. Ils prenaient le souper du Seigneur, c'est ainsi que dans la Bible s'appelle la Sainte Cène. Et les Corinthiens prenaient le souper du Seigneur avec dans leur cœur un esprit de parti qui était la négation de l'unité du corps de Christ. Leur marmite en était empoisonnée, ils ont refusé de se juger, ils ont continué d'en manger, et ils ont fourni du travail aux fossoyeurs. Eh oui, aux fossoyeurs. Cela se lit en 1 Corinthiens 11, des versets 17 à 34. Quelle est la solution ? Le prophète vient avec une poignée de farine qu'il jette dans le pot et tout s'arrange. La farine dans les offrandes de l'Ancien Testament est un type de la parfaite humanité du Seigneur Jésus, de ses perfections absolues venant au secours de nos imperfections et par extension de son pardon gagné par sa mort à la croix, qui descend dans l'amertume, le poison et la mort de nos péchés. La solution unique et radicale aux colloquintes que nous avons mis dans nos vies, c'est que Jésus lui-même soit reçu dans un cœur repentant qui reconnaît ses erreurs. Le roi David a commis un grand péché, mais il a reçu un grand pardon parce qu'il s'est humilié devant Dieu. Il a reconnu son péché en ces termes. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » Il voulait dire par là, « Purifie-moi des colloquintes que j'y ai mises. Lave-moi complètement de mon iniquité, a-t-il ajouté, et fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » J'enseignerai alors tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Cela se lit dans le fameux psaume 51, aussi appelé le psaume de repentance. Mais surtout, mes amis, mes frères et sœurs, surtout ne blâmons pas la marmite. La vieille horloge qui est toute déréglée et qui fait 80 minutes dans l'heure, vous dira « Ne blâmez pas mes aiguilles, le mal est plus profond. » Ce n'est pas la marmite qu'il faut blâmer, c'est ce qu'on y a mis. Ce n'est pas la vie qu'il faut blâmer, elle est un don de Dieu, mais c'est ce qu'on met dedans. Ce n'est pas le mariage qu'il faut blâmer quand il vacille, c'est ce qu'on a mis dedans. Ce n'est pas l'Église, l'Assemblée qu'il faut blâmer, c'est ce qu'on y met. Si, comme je l'ai dit tout à l'heure, le monde est plein de colloquintes, il y en a aussi quelques-unes dans l'Église. Des gens viennent me dire « Je ne reçois rien dans mon Assemblée ». Je leur demande « Qu'apportez-vous dans votre Assemblée ?» Rien. Alors ne vous étonnez pas que vous ne recevez rien en retour. D'une marmite à soupe, on ne tire jamais que ce qu'on y met. Il faut aussi remarquer que l'effet n'a pas été immédiat. Ils n'ont rien soupçonné quand ils les ont trouvés et ramassés. Ils n'ont rien soupçonné quand ils les ont coupés en morceaux. Ils n'ont rien soupçonné pendant la cuisson. L'odeur n'a rien révélé. Mais c'est quand ils ont mangé le potage qu'ils ont craché tripe et boyau. Et si nous mettons les colloquintes du péché dans nos vies, le Seigneur nous mettra en bouche comme l'assemblée de Laodicée, à laquelle il a dit « Parce que tu n'es ni froid ni bouillant, mais parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. » Parce que tu es tiède. Voilà une des colloquintes de notre siècle. Parce que tu es tiède. Parce que tu n'es plus disponible. Parce qu'on ne peut plus compter sur toi pour rien. « Je te cracherai de ma bouche, dit le Seigneur. » Eh bien, c'était là le premier panneau de la leçon de choses que le Seigneur voulait qu'ils apprennent. Ils avaient fait de leur mieux, mais les éléments requis n'ayant pas présidé à cette entreprise, celle-ci aurait été une faillite complète sans l'intervention miséricordieuse de Dieu. Quel contraste avec le deuxième panneau qui va suivre. Ici, tous les éléments sont rassemblés pour en faire un succès, et ils vont apprendre, ces jeunes gens, et nous avec eux, nous allons apprendre que l'œuvre de Dieu, elle est à Dieu. C'est la sienne. Avant tout, c'est avec lui qu'il faut compter. Nous avons toujours tendance à ramener tout à nous-mêmes. Bien des impatiences, des irritations, des découragements ne nous envahiraient pas si nous ne ramenions pas tout à notre petite personne. Il m'arrive parfois dans le colportage ou les visites ou quand je frappe aux portes pour donner des invitations, devant un refus ou une impolitesse ou une porte qu'on vous ferme au nez, il m'est arrivé que je souffrais, mais je souffrais moins pour l'œuvre du Seigneur que pour moi-même. Je me sentais plus repoussé que le Seigneur. Je me sentais plus meurtri que lui. Ma tristesse, en fait, elle était plus terrestre que céleste. Ainsi, à nos échecs, nous trouvons une grâce du Maître, celle de nous replier sur lui, et de savoir qu'avant tout, l'œuvre de Dieu, elle est à Dieu. C'est ce que Zorobabel s'entendra dire dans le prophète Zacharie au chapitre 4. « Ce n'est pas par ta force et par ta puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Eh bien, eux, ici dans ce texte, ils se sont agités. Élisée, lui, attend paisiblement. C'est à eux plus particulièrement que s'adresse le psaume 127, verset 21, un texte qui m'a fait beaucoup de bien. « C'est en vain que vous vous levez de bon matin, que vous vous couchez tard, que vous mangez le pain des douleurs. » Cette première partie du verset, c'est pour eux, et pour Élisée, l'autre moitié que voici. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Et c'est ainsi, ou plutôt, et c'est alors, qu'un homme muni d'un repas surgit tout à coup sur la scène. Le bouillon vient tout juste d'être mangé, et Dieu fait maintenant servir le plat de résistance. Et cela à la minute exacte, aussi bien qu'au restaurant. Dieu ne fait pas les choses à moitié, parce que c'est son œuvre. La bonne œuvre qu'il a commencée en vous, il l'achèvera, affirme Philippiens 1, verset 6. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est son œuvre à lui. Nous avançons dans notre étude, et nous découvrons aussi que l'œuvre de Dieu se fait avec les instruments qu'il veut. Et c'est l'irruption inattendue de cet homme qui va nous l'apprendre. On ne connaît ni d'Ève ni d'Adam. Son nom n'est même pas mentionné. Seule la ville d'où il est nous est citée. Et cela nous indique la distance. Il avait parcouru environ 25 kilomètres pour arriver à Gilgal. Non, il n'est pas nécessaire d'avoir un nom pour faire l'œuvre et la volonté de Dieu. Celui-ci n'avait pas un nom illustre. Il n'était pas fils des prophètes. Il n'avait pas d'ancêtre glorieux dans sa famille, pas de martyr non plus. Il n'est pas venu avec son arbre généalogique. Il ne venait de nulle part. Ou plutôt si, il venait de Dieu. Il n'avait jamais été à l'école des prophètes. Il ne sortait pas d'une faculté de théologie renommée. Mais Dieu se sert de lui pour donner une leçon d'envergure à ceux qui sont à l'école biblique des Champs-Élysées. Lui qui n'a jamais écrit une thèse, il va donner de la matière à ceux qui en préparent une. Et ses fils de prophètes, après avoir été au pied de ce grand Gamaliel qui était Élisée, ils vont maintenant se mettre au pied d'un humble inconnu, et ils vont apprendre que non seulement l'œuvre de Dieu se fait avec ceux que Dieu plaît à se choisir, mais encore elle se fait avec des instruments consacrés. Parce que ce qui nous fait connaître cet homme, c'est ce qu'il a apporté, et ce que cela lui a coûté pour l'apporter. 20 pains des prémices et des épis nouveaux dans un sac. Les prémices, un mot sur les prémices, c'était la première partie de la récolte qui devait être offerte à Dieu. Voilà ce qu'il a apporté. Et voilà ce qui révèle le nouveau professeur. N'oublions pas que dans le Nouveau Testament, les prémices, mais c'est nous. Nous ne nous appartenons plus, dit 1 Corinthiens 16, verset 19, mais à celui qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous, achève Galates 2, verset 20. Mais ici, il y a plus encore, nous sommes en Samarie, dans la partie apostate du pays d'Israël, au temps du mauvais roi Achab. Il n'y a pas de temple pour y porter les prémices, ni de serviteur de l'Éternel à qui les remettre. Où donc aller ? À qui donner ce qui appartenait à Dieu ? Eh bien, qui cherche trouve, et il a trouvé. Comment ? Je n'en sais rien. Il a fait 25 kilomètres avec 20 pains et un sac d'épis, sans triporteur ni de chevaux, mais à pied. Il n'avait pas d'Élysée pour lui dire ce qu'il devait faire. Il n'a pas eu de vision spéciale, il n'a pas entendu des voix. Il avait tout simplement la loi de l'Éternel, la parole de Dieu. Et il n'avait pas comme nous des Bibles imprimées. Le peu qu'il connaissait et qu'il avait retenu, il l'a mis en pratique. On comprend que ce qui était consacré, ce n'était pas tellement ses épis et son pain, c'était lui-même. N'oublions pas non plus que ça s'est passé dans une époque de famine, et c'est souligné dans la Bible. Il aurait très bien pu garder le tout pour lui, en s'appliquant ce proverbe non biblique, mais très répandu et pratiqué, « charité bien ordonnée commence par soi-même ». Non, loin de lui cette pensée, il dépense et se dépense sans compter. Élisée aussi était dans de bonnes dispositions, et c'est là un élément important dans la bénédiction qui va suivre. C'est à lui que la nourriture était destinée en premier. Mais c'est aux autres qu'il pense d'abord. La Bible dit qu'il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, et il le sait. Aussi, après le petit bonheur qu'il a éprouvé en recevant, il veut entrer dans le plus grand bonheur en donnant. C'est ce que dit le psaume 133. « Voici, oh, qu'il est doux pour des frères de demeurer unis ensemble !» C'est là que Dieu met sa bénédiction pour l'éternité. Les meilleures conditions sont réunies, à savoir foi, vision, consécration, connaissance, amour. Dieu peut y mettre son approbation, et le résultat s'appellera surabondance. La leçon sera apprise. La nuit, avant de trouver le sommeil, les 100 candidats au service de Dieu, s'enroulant dans leur couverture ou leur sac de couchage, vont réfléchir, et avant que le sommeil les gagne, ils verront surgir dans leur esprit le contraste entre ces deux leçons de choses. Dans la première, ils s'y verront eux-mêmes, ce sera une faillite. Dans la seconde, ils y verront le Seigneur, ce sera un succès sans bavure. Dans la première, ils sont restés sur leur faim, ils n'ont eu qu'un bouillon empoisonné. Dans la deuxième, ils ont été repus, et il y en avait de reste. Dans la première, l'intervention de Dieu s'appelait rectification. Dans la seconde, l'intervention de Dieu s'appelait multiplication. Le sommeil pouvait venir, la leçon était apprise. Aurons-nous aussi appris la leçon avant de nous endormir ce soir? C'est la question qui nous reste. Aurons-nous appris la leçon avant de nous endormir ce soir? Nous prions. Seigneur, très brièvement, très simplement, nous nous replaçons devant toi, devant ton œuvre, devant l'appel que tu nous as adressé à chacun, de te servir, mais de te bien servir. Aide-nous, Seigneur, à saisir cette leçon, ces deux panneaux, et que ces vérités marquent notre vie et notre service pour toi, pour un maître qui s'est donné tout entier, pour te plaire, pour faire ta volonté, et pour nous avoir à son service, et nous avoir aussi dans son ciel. Seigneur, accompagne-nous ce soir dans notre retour. Nous t'en prions, et que, pendant l'éveil de la nuit, nous repassions ces choses dans nos cœurs. Nous te demandons au nom de celui qui est notre divin Élysée, le Seigneur Jésus. Amen, Seigneur.